Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et 01TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve comme chaque week-end. Une petite heure dédiée à la tech. On va débriefer toute l'actu tech de cette semaine. Bienvenue dans De quoi je me mêle. On va évoquer énormément de sujets. Des sujets tout bouillants hein, avec la numéro 2 de Facebook qui a décidé de quitter en fait la direction de Meta. C'est quand même une information importante. On parlera aussi tout à l'heure de Safari, vous savez, le navigateur d'Apple qui vient de dépasser le milliard d'utilisateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire un milliard d'utilisateurs pour un navigateur? On rentrera dans les détails. Et puis bien sûr d'autres titres d'actu. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment sur la chaîne 01TV. D'ailleurs j'aurai une petite information à vous communiquer à la fin de ce De quoi je me mêle, mais aussi sur la chaîne YouTube et puis sur BFM Business le week-end. De quoi je me mêle à la radio, à la télé. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et donc le club de la presse IT avec cette semaine, eh bien deux intervenants de choix du premium, mesdames, messieurs, le label rouge. D'un côté Raphaël Grably, salut Raphaël.
Salut François.
Journaliste à BFM TV et BFM Business aussi. Et puis juste en face de lui, c'est Anthony Morel qui est là. Salut Anthony.
Bonjour.
Voilà Anthony Morel que vous retrouvez bien évidemment le matin sur BFM Business, mais aussi sur RMC avec Estelle Denis entre midi et deux. On va revenir sur toute l'actualité de cette semaine, beaucoup de choses et pour commencer, la livraison par drone. Imaginez vous faire livrer une pizza, peut-être votre chargeur d'iPhone que vous avez préalablement pété, qui pourrait arriver comme ça, zzz, devant chez vous, livré par drone en quelques minutes. Ça fait des années qu'on nous en parle. Visiblement, Anthony et Raphaël, ça commence à s'accélérer aux États-Unis.
Ouais, ça avance. Alors là, c'est Walmart, géant de la distribution évidemment, qui a lancé, alors non pas seulement une expérimentation, parce que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on a Pizza Hut qui lance sa pizza par drone, mais enfin, t'as une pizza qui a été livrée une fois à un clampin.
C'est histoire de faire la vidéo YouTube.
Quoi. Voilà, c'est ça, t'as la vidéo YouTube et c'est tout. C'est un peu de la com.
Ouais, Amazon, là, on parle depuis des années.
C'est vrai,
aussi,
alors, hein. Ils font beaucoup d'expérimentations aussi Amazon, mais là, Walmart, ils lancent un service commercial qui est disponible pour 4 millions de personnes. Donc, à l'échelle des États-Unis, c'est pas énorme, enfin, c'est quand même 4 millions de personnes qui vont être desservies et qui vont pouvoir donc commander leurs courses qui leur sera livrée par la voie des airs. Donc, en gros, tu passes commande sur une application de manière tout à fait normale. Et en une demi-heure chrono, tu as ce drone qui arrive au-dessus de chez toi, va dérouler un filin. Je fais les petits bruitages avec.
Mais tu sais quoi, on voit que tu es un homme de radio.
Mais évidemment.
Parce que autant la télé, ça n'a aucun sens.
Mais bien sûr. Mais il faut donner à voir.
Mais à la radio, on entend et tout, c'est top.
Dites-moi si je bruite bien le drone. Franchement, ça me fait plaisir.
C'est sublime.
Et donc, le colis arrive, j'allais dire sur le pas de la porte. En l'occurrence, c'est plutôt dans ton jardin.
Bloc.
Bloc.
C'est le bruit qui...
Voilà, exactement. Si c'est sur de l'herbe, ça ne fait pas trop de bruit normalement. 5 kilos maximum. Évidemment, on ne va pas faire les courses de la famille de 4 personnes livrées par drone.
Alors,
on va
falloir 5 kilos, ça commence à faire. Hein.
Mais ça mal, commence à faire. C'est pas mal déjà.
Rappel, pourrait se faire livrer sa PlayStation.
Ah oui, c'est
exactement.
Vrai. Il recherche une PlayStation.
Kilos. Oui, je cherche une PlayStation 5 désespérément.
Tu vois, on a réussi à le caser.
Ah oui, merci.
Mais c'est pas grave.
Il y a peut-être des auditeurs ou des spectateurs qui cherchent à en vendre une. Hein,
c'est vrai, c'est vrai.
Bienvenue dans le bon coin sur BFM Business.
Non, mais c'est. Voilà, donc. Pour tout ça pour dire qu'on est au-delà de l'expérimentation. Là, c'est un service qui est lancé commercialement, donc qui fonctionne réellement et qui, je pense, est un, on va dire, une incursion assez intéressante. Il va falloir voir si, effectivement, il y a une clientèle pour ça, comment ça fonctionne. Alors, il faut noter que ce n'est pas pour les clients des grandes villes. Tu imagines bien que le drone, il ne va pas venir toquer à la fenêtre d'un immeuble. C'est plutôt pour les gens qui habitent dans des zones rurales.
Oui, donc mais des pavillons, des maisons individuelles, etc.
Exactement, hein. Dans les suburbs américaines, hein, globalement, c'est un peu ça. Mais on voit bien l'intérêt que ça peut représenter, puisque là, tu as une livraison extrêmement rapide. Alors, j'allais dire autonome, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même un opérateur humain hein, qui supervise le drone et qui peut le guider à distance.
Donc, le drone est télécommandé, en quelque sorte.
Oui, c'est ça, exactement. Mais à terme, on peut imaginer des processus complètement autonomes avec peut-être un opérateur pour superviser toute une flotte de drones, mais tu vois, pas beaucoup plus que ça.
Après, ce qui serait intéressant, Raphaël, c'est de voir combien de colis ont été livrés comme ça par drone. Je sais pas si on a l'info.
On n'a pas le chiffre pour l'instant.
Non, ils n'ont pas le chiffre. Je suppose que c'est en dizaines de milliers. fumée, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on voit sur les images, c'est justement ces fameux pilotes de drones, ils sont FAA certifiés, c'est-à-dire qu'ils sont certifiés par les autorités de régulation du secteur aérien. Ça, c'est hyper important parce qu'on le sait bien.
Ils peuvent piloter des Airbus aussi, donc.
Alors voilà, bon, je ne monterai pas dedans. On va rester au drone, voilà, ouais. C'est ça, c'est juste pour arrondir ces fins de mois. Mais c'est hyper important. Parce qu'on voit bien que la clé là-dedans, c'est la régulation,
bien sûr.
C'est les autorités de régulation. Et on voit bien que le fait d'être certifié pour quand même démarrer les livraisons de drones sur 4 millions d'Américains, alors comme tu le disais, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. En gros, c'est un peu moins d'1% de la population américaine. Mais enfin, en valeur absolue, ça fait pas mal. Et puis ça fait, on va dire, une grosse version bêta du truc. Donc je trouve ça assez intéressant. Et après, la question, c'est à qui ça s'adresse et pourquoi ? Alors évidemment, pas les zones urbaines, plutôt les zones périurbaines. Et pourquoi ? Et ça, c'est intéressant parce que Walmart, dans son communiqué de presse, a dit « Au début, on pensait que ce serait plus pour des produits un peu d'urgence, éventuellement des médicaments, parce que là-bas, les médicaments sont vendus facilement en grande surface. » Et puis en fait, les livraisons, c'est le produit le plus vendu, c'est un kit pour faire son hamburger. Et moi, ça me fait vachement penser finalement aux commandes, à ce qu'on a en France, les Getir, les Cajou, toutes ces livraisons maintenant. On pense au début que c'est fait pour des urgences, et puis finalement, on s'en accommode tellement que ça devient une livraison peut-être demain pour une boîte de piles, pour un ketchup qu'on aurait oublié. Parce que la livraison, elle n'est pas chère, c'est 4$. Donc bon, alors peut-être pas une boîte de ketchup, mais voilà, 2-3 tubes de ketchup si on a oublié le ketchup. Et donc au final, on se rend compte que ça va créer quand même une consommation qui est encore différente. C'est-à-dire que c'est vraiment la micro livraison. Et la question, c'est de savoir, bon, est-ce qu'on en a besoin ? Ça, c'est l'éternelle question.
Oui.
Et de savoir, après, effectivement...
Et l'impact environnemental que ça a aussi.
Et l'impact environnemental que ça. Par contre, l'avantage du drone, et ça répond à une question à laquelle ne répond pas les Cajou, les Getir, qui sont eux plus pour les villes, c'est forcément le coût humain, puisqu'il y a toute la question du salariat dans ce cadre, alors que là, évidemment, avec des drones, cette question ne se pose pas. Donc, à la limite, c'est peut-être plus la réponse.
Il faut payer les opérateurs, quand même.
Oui, alors... C'est vrai, il faut payer.
Ouais,
il faut payer.
Avis,
non, mais les opérateurs, alors ils sont salariés. Par contre, ils sont pas salariés de Walmart. Ils sont salariés de la boîte
mais
qui est partenaire.
Ils ont un coût. Si
mais bien sûr, ils ont un coût. Mais disons que ça coûte probablement moins cher parce qu'une livraison par drone, c'est quand même très rapide finalement.
Oui, puis finalement.
Donc le salaire horaire, c'est le business model me semble déjà plus cohérent avec un opérateur qui peut livrer. Voilà, je pense faire plusieurs livraisons en une heure qu'à vélo où il faut parcourir et où c'est forcément plus long.
La question, ça va être aussi celle de la pollution visuelle et sonore. C'est-à-dire que franchement, si tu as 4 millions ou demain 400 millions d'Américains qui commandent une boîte de piles et il y a un drone qui décolle à chaque fois, enfin franchement,
oui, mais,
c'est l'enfer.
Le problème, c'est que... le problème, c'est qu'on est de plus en plus flemmards. C'est pas une critique,
oui,
c'est un fait.
C'est une réalité.
Et moi, le premier, et que demain, si on te dit... Tu as un drone qui va t'apporter ton ketchup, pourquoi pas ? Je veux dire, t'as ton steak haché devant toi, on dit t'as ton ketchup dans 5 minutes, tu vas le faire.
Ouais, mais là, c'est
donc il y a un moment, la limite, elle se posera d'une façon ou d'une autre. Et comme tu dis, la limite, c'est la pollution visuelle, audio, enfin voilà,
ouais,
sonore,
sonore vraiment,
notamment
oui,
sonore.
Je pense que ça va poser un vrai problème.
Peut-être qu'il y aura une régulation.
Si tu veux... Non, mais le truc, c'est que pour moi, alors après, voilà, chaque consommateur est libre. Je trouve que ça a un intérêt, la livraison par drone, quand tu parles livraison effectivement de médicaments. Des organes pour une grève d'urgence. Et il y a plein d'expérimentations aussi qui se font dans ce territoire-là. Ou dans des zones très isolées, terrains accidentés, en montagne. Il y a La Poste, je crois, qui a fait des expérimentations d'ailleurs sur des livraisons, sur des zones où, pour le coup, par rapport à un facteur, là, un drone, il y a un gain d'efficacité qui est très net.
Oui, admettons une route enneigée qui est bloquée.
Si chacun peut continuer
à livrer du courrier.
Comment son pot de moutarde.
Moi, je serais plus dans l'encadrement de la commande, c'est-à-dire.
Ketchup moutarde, visiblement.
Il y a deux teams.
Non, on a la moitié du cheeseburger, les amis.
Mais non, moi je suis plus dans l'encadrement peut-être de ce qu'on pourrait commander, c'est-à-dire faire une commande, mais encore une fois c'est limité à 5 kilos, mais un peu plus substantiel, qui a un peu plus de sens. Faire un montant minimum ou des articles minimum pour, disons, remplir au minimum le truc, parce qu'après, quand même, je trouve que ça a du sens aussi, parce qu'on sort de la période Covid, enfin on est quand même plus ou moins dedans, on est dans une période où il y a du télétravail, on est dans une période où les gens ont envie peut-être de vivre aussi différemment,
mais oui.
et où d'ailleurs on est bien content aussi que les gens ressortent un peu des villes et redynamiser des zones qui sont un peu mortes, et ça par exemple, ça peut aussi accompagner ce mouvement, ça permet de sortir de cette zone tout en n'étant pas complètement déconnecté et en ne renonçant pas quand même à, on va dire, une volonté un peu... on va dire instantané, spontané.
Mais si tu vas vivre à la campagne pour être tranquille et que tu as des zones qui te survolent toute
la
journée...
Non, mais c'est pour ça. Faut voir quel sens ça peut avoir, c'est clair. Mais par contre, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est voilà, 4 millions de personnes.
Ouais.
C'est, en valeur absolue, c'est quand même énorme.
Oui. Après, c'est un bassin de population. Hein.
Oui, absolument.
C'est disséminé, hein, voilà, et puis c'est disséminé dans plusieurs endroits.
Voilà, il y a peut-être 1% de ces 4 millions qui vont bénéficier
oui,
de ce
service. Oui, bien sûr, il n'y aura pas 4 millions de clients.
Il y a 4 millions de personnes qui sont éligibles à la fibre.
Non, mais bien sûr, oui, c'est 4 millions de personnes éligibles à la livraison, c'est pas 4 millions de clients, c'est clair.
Exactement.
Et puis tu as quelques limites aussi pour ces drones, c'est comment ils gèrent le truc quand c'est des conditions météo un peu compliquées, tu vois, quand il y a du vent très fort, quand il y a de la pluie, ou quand ils se font, je sais pas si vous vous souvenez de ça, on en avait parlé, quand ils sont attaqués par des oiseaux.
Ouais, c'est Google qui a des gros problèmes en Australie.
Avec les corbeaux, qui attaquent les drones, parce qu'ils
sont sur leur territoire.
Ils sont sur leur territoire, c'est ça.
C'est incroyable.
Surtout si t'as le ketchup à l'intérieur.
Ah bah c'est ça.
Ça peut
mettre le corbeau sur son arbre perché, il va chercher le fromage qui est dans, qui est dans la boîte.
Pour revenir à ton exemple de steak haché, si tu te fais livrer le steak haché et que le corbeau t'a piqué,
t'es pas très content.
Mais remboursé par Walmart si le drone se fait.
Mais tu vois, ce qu'il disait, c'est la livraison, le produit star de cette livraison, c'est un hamburger. Enfin, c'est un kit pour hamburger, donc c'est bien steak haché.
C'est dingue. Bon, on verra si tout ça décolle, c'est le cas de le dire, en France un jour. Tiens, puisqu'on parle de robots et de d'assistance, c'est assez intéressant de voir la direction que prend une boîte que moi j'aime beaucoup, qui est Dyson.
Ouais.
Avec une personnalité emblématique, qui est James Dyson, qui a créé en fait sa société, qui gère ça encore un peu en bon père de famille avec son fils d'ailleurs. Dyson, qui bien sûr fabrique des aspirateurs, des sèche-cheveux, enfin des trucs comme ça.
Purificateur d'air aussi.
A annoncé pas mal de choses ces derniers temps.
Oui, et notamment dans le domaine de la robotique. On ne les attendait pas forcément sur ce champ-là. Et en fait, ils ont annoncé qu'ils travaillaient depuis plusieurs années dans le plus grand secret. Alors, ils ont fait un peu de marketing autour de ça, ils ont publié une vidéo très sympa, mais sur des robots à tout faire. Ils nous promettent que d'ici 2030, on pourrait avoir à la maison des sortes de robots majordomes qui pourraient s'occuper à notre place de toutes les tâches du quotidien, toutes les corvées. Alors, ils ont montré quelques images de ces robots, des prototypes. Alors, on voit un robot, par exemple, qui est capable de se saisir d'une assiette ou d'un verre et de les poser dans le lave-vaisselle. On en voit un autre attraper un doudou qui traîne sur une table ou qui traîne par terre et le remettre à sa place, ou encore se saisir d'une bouteille d'eau de Javel, donc peut-être pour récurer les WC ou la salle de bain. On n'en voit pas beaucoup plus pour l'instant, mais en tout cas, l'ambition est celle-là. Ce serait d'avoir vraiment des robots qui seraient capables de s'occuper de tout à notre place. Bon, on parlait de la fainéantise de celui qui se fait livrer par drone. Maintenant, on aura aussi le robot
qui va récupérer le hamburger qui est dans le drone.
Exactement. Et qui viendra te le servir ensuite.
Ça te permettra de ne pas interrompre ta partie sur la PlayStation 5.
Voilà. Enfin, que tu te seras livré par drone.
Oui. Si d'ici là, tu en as eu.
C'est 2040, c'est ça ? 2030 ?
C'est ça, à peu près. 2030.
Peut-être que j'aurai peut-être une manette.
Il y aura peut-être la PlayStation 6 déjà. Mais
bon, intéressant. Après, moi, les images que je vois, je ne sais pas trop. Moi, c'est pas très convaincant quand même. Hein.
On ne voit pas à quel produit ça peut aboutir. Pour le moment, ça reste un bras articulé avec une pince qui, personnellement, me fait plus penser aux bras qu'on a dans les machines, dans les fêtes foraines pour aller chercher un jouet. Non, mais ça ressemble à ça. Mais après, évidemment, là, je suis un peu sévère parce qu'en vrai, c'est hyper sérieux ce qu'ils font. Parce que déjà, quand on voit le montant investi, c'est plus de 3 milliards d'euros, sachant en gros, c'est un an et demi de bénéfices. Donc, c'est quand même conséquent. Ils veulent employer 700 personnes, donc c'est important. À mon avis, ce qu'ils montrent là, c'est évidemment pas des futurs produits. On ne va pas avoir des bras robotisés chez soi de cette nature. Pour moi, c'est plus des façons de faire des tests pour ensuite implémenter ce type de produit dans d'autres machines, peut-être. Mais c'est vrai que pour le moment, ça manque de concret. On se demande concrètement, un bras qui peut saisir un doudou, c'est très bien. Mais après, il faut voir dans quel contexte ça va être apporté, avec quel produit, quelle forme. Est-ce que vraiment, c'est ce fameux robot majordome qu'on va voir, ou est-ce que ça va être autre chose? Parce que Dyson, ça peut être aussi des...
Il faut un peu d'intelligence quand même derrière tout ça, parce que c'est bien
alors,
beau d'arriver...
Alors justement, et c'est ce que je voulais ajouter, c'est qu'évidemment, là où je suis sévère avec l'histoire du bras dans la fête foraine, c'est qu'évidemment, là, il y a toute l'intelligence derrière, il y a tous les capteurs derrière, évidemment, ça change tout. Moi, la seule question que je me pose vraiment, c'est est-ce que l'idée, c'est d'avoir un robot majordome, ou comme on le voit, c'est peut-être de fixer des bras au mur, par exemple à côté de l'évier,
qui vont automatiser certaines tâches
précises, ce qui est possible aussi, c'est-à-dire de ne pas avoir un robot à tout faire, mais plus une sorte de module qu'on va mettre sur son mur à côté de l'évier.
Moi, je vote pour le robot qui vide le lave-vaisselle.
Ah ouais,
voilà. Moi, celui-ci, vous voyez, je serai prêt à faire des bisous sur le front à James Dyson.
Moi, celui qui étendra le linge, moi, personnellement, c'est celui-là.
Ah ouais, celui-là, je préfère vider la vaisselle.
Moi, c'est pareil, je préfère vider la vaisselle. Mais tu sais, alors, je suis d'accord avec toi, sur les images quand même, alors, quand on regarde attentivement, il y a un moment dans la vidéo où on voit, mais ils ont flouté, en fait, on voit un robot qui a l'air de rouler et qui doit être équipé de certaines de ses pinces. Donc, ce qui laisse entendre que...
Ce qui est flouté est forcément le plus intéressant.
Évidemment, évidemment. Mais bon, j'imagine que c'est pour des questions de... Voilà,
oui, de confidentialité.
Et ce qui laisse aussi à penser cela, c'est que Dyson est loin d'être le seul à travailler sur le sujet. On a chaque année au CES de Las Vegas des prototypes qui sont montrés. La dernière fois, c'était Samsung, je crois, de robots majordomes. Et on voit bien qu'en gros, ce qu'ils imaginent... Alors, est-ce que ça arrivera dans les maisons ou pas? J'en sais rien, mais c'est une sorte de R2-D2 qui est capable de cartographier une pièce comme le fait un robot aspirateur aujourd'hui, mais qui serait équipé de pinces, de bras, et qui serait capable de récupérer un objet et de faire tout un tas de choses, de vous servir. Alors, il y avait dans la vidéo de Samsung, c'était, tu sais, il venait te servir un verre de vin alors que tu étais tranquillement installé sur le canapé. Voilà, donc ça, je ne sais pas si ça arrivera.
Mais alors ça, c'est vrai que les Sud-Coréens ou les Japonais, souvent, ils aiment bien faire des démos d'un robot qui est un peu waouh, mais qui vraiment, au quotidien, on se dit que ça ne servirait vraiment pas à grand-chose. Là, c'est un peu différent, c'est plus des technos qui montrent. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant, c'est la stratégie de communication. Parce qu'on dit souvent que Dyson, c'est un peu le Apple de la maison, quelque part. C'est une marque premium. Ça, c'est quelque chose qu'Apple ne ferait jamais montrer comme
le
work in progress. Et donc, c'est une stratégie très, très, très différente. Et donc, l'idée, c'est aussi de montrer, on se diversifie, c'est peut-être aussi pour les actionnaires, d'un point de vue financier, c'est on voit vers l'avenir, on se diversifie. Et après, là où quand même, il faut faire attention, c'est que Dyson, ils ont quand même lâché, je crois, 500 millions d'euros. Pour la voiture...
Ils ont abandonné le projet.
Donc là, on parle de 3 milliards, c'est 6 fois plus.
Et puis ils ont investi énormément dans les batteries. Je me souviens à l'époque, je sais pas, on en avait parlé d'ailleurs, il y a quelques années de cela. Ils avaient investi énormément dans des nouvelles technologies de batteries pour avoir encore plus de puissance disponible dans tous leurs appareils. Et c'est ce qui leur avait donné l'idée de créer une voiture avec une grosse autonomie. Mais en fait, James Dyson s'est rendu compte quand on fabrique des aspirateurs, bon, ok, c'est compliqué, mais passer après à l'échelle de l'automobile, c'est une autre histoire, il a laissé tomber.
Moi, la seule question que je me pose, c'est vers où va Dyson ? C'est-à-dire que d'un côté, on a l'aspiration, c'est leur expertise. D'un côté, il y a maintenant le côté, il y a les produits de beauté, en fait, la cosmétique quasiment. Enfin, les produits de beauté, c'est-à-dire les sèche-cheveux, etc. Bon, là, on est encore dans l'aspiration. Après, il y a les produits B2B.
Il y a le produit What the Fuck aussi.
Il y a les produits What the Fuck avec le casque audio, avec le purificateur d'air.
Je dois le recevoir celui-là.
Franchement, alors tu sais quoi, il faudra que tu viennes.
Mais bien sûr, bien sûr.
Non, mais là, franchement, tu fais toute l'émission avec
le casque. Non, mais déjà, j'hésite. Je me dis, quand je le reçois, est-ce que je le teste dans la rue, quoi, tu vois ? Est-ce que tu assumes le look ?
Il faut faire. Tu vois ?
Je fais une vidéo sur les réactions. Il faut qu'il y ait une caméra avec toi.
Moi, je fais une vidéo sur les réactions des gens. C'est ça qui est marrant. Mais en gros, Dyson va quand même dans pas mal de directions et c'est vrai que je me pose la question de quelle est la stratégie.
C'est plutôt intelligent et courageux de la part d'un entrepreneur de se dire, ok, je vais essayer de sortir de mon univers de confort pour essayer d'aller ailleurs.
Je crois que au-delà du gadget, le robot d'assistance a vraiment des beaux jours devant lui. On parlait de la fainéantise, c'est une chose, mais tu as aussi l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées. Enfin, il y a un énorme marché en réalité pour ces robots d'assistance.
Surtout en Europe, dans les prochaines années.
Exactement.
Tiens, puisqu'on parle de robots, mais cette fois-ci qui sont à l'intérieur d'énormes clouds et en l'occurrence de ceux de Google. Anthony Raphaël, vous vouliez nous parler en fait d'Imagen, qui est une IA qui est hyper bluffante. Franchement, c'est hyper spectaculaire.
C'est assez incroyable ce que Google a mis en place, alors qui pour l'instant n'est qu'une sorte de prototype. Google a publié des papiers dans les revues scientifiques, mais en gros, Imagen, c'est une intelligence artificielle qui, à partir d'une description de quelques mots, va te générer l'image correspondant à ce que tu as écrit. Donc, si j'écris dans ce moteur de recherche François Sorel en kimono à fleurs qui mange des macarons avec un tigre à dents de sabre,
Et une PlayStation 5,
on va voir une image de François avec un kimono. Enfin, voilà, il va reconstituer une image, il va aller chercher une image de François, il va ajouter le kimono, il va te mettre... Et alors, encore une fois, la promesse est belle. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on a vu que des images qui ont été générées par Google et des exemples donnés par qui ont déjà été générés par Google. Mais c'est vrai que sur les exemples qu'ils donnent, c'est bluffant. On se dit, mais si on arrive à faire ça réellement et à générer des images à partir de mots, le potentiel est quand même assez, assez
incroyable. Surtout pour les journalistes, quand on a besoin de trouver une illustration pour un papier qui est un peu compliqué.
Attends, c'est top,
c'est hein. clair.
C'est parfait.
Alors, les trucs sont assez dingues. Donc, là, tu vois, il a dû taper un cactus avec des lunettes, un raton laveur en tenue d'astronaute, un chat qui se regarde dans un miroir.
Ah, c'est un chien qui ou le reflet, c'est un chat.
Ouais, ou le reflet, c'est un chat. Ouais.
Non, c'est hyper impressionnant. Effectivement, ce qui manque, c'est de pouvoir taper soi-même les mots, parce que pour le moment, donc il y a une page qui est très bien faite sur le site d'Imagen où on peut cliquer sur des mots pour affiner, mais donc du coup quand même le stock de photos
est bien
déterminé. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est si on vraiment on tape ces mots, sur quel type de biais, parce que forcément, c'est, à mon avis, c'est la crainte aussi là-dedans, c'est sur quel type de biais algorithmique on va retomber. On sait très bien, il y a eu des tas de tentatives. On se souvient de Microsoft avec le bot sur Twitter qui était devenu complètement raciste, qui s'inspirait des autres commentaires Twitter qui étaient devenus, je crois, pro-Hitler en 3 heures, en gros. Donc, moi, la question que je me pose, c'est si on tape certaines professions, par exemple, si on tape PDG, par exemple, est-ce qu'il va nous mettre plus un homme qu'une femme ? Si on tape hôtesse de l'air ou steward ou peu importe, mais est-ce que certains mots ne vont pas être associés de fait par l'algorithme à ce qui existe déjà ? Et donc forcément...
C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas rendu public, d'ailleurs. Voilà. Ils ont dit il faut des garde-fous supplémentaires.
Exactement.
Avant qu'on puisse
le rendre public. Parce que là, le risque est trop grand. C'est presque un proof of concept, en
c'est
fait.
Ça.
C'est, voilà, dire, voilà, on est sur cette voie-là. C'est
mais en interne, je trouve que ce sera un bon outil pour eux, interne, pour voir les biais algorithmiques. C'est-à-dire eux-mêmes s'en servir pour débusquer des biais algorithmiques pour ensuite mieux les corriger. Mais par contre, effectivement, si on croit parfaitement ce qu'ils disent et si on pense que ce qu'ils ont montré a été généré comme ça, sans correction après ou sans essayer d'en faire trois pour en trouver une qui était bien, franchement, c'est assez impressionnant.
Et puis, on n'a plus trop de temps. C'est intéressant dans leur stratégie qui est d'avoir un entrelac de plus en plus important entre la recherche image, la recherche texte. Tu sais, ils avaient fait ces annonces d'un moteur de recherche multimodal où, en gros, tu pourrais, je sais pas, tu viens de crever ton pneu de vélo, tu as juste à montrer à la caméra le pneu de vélo et le moteur de recherche va comprendre que tu cherches un tutoriel pour comment réparer son pneu. Tu vois, ils ont toute cette logique-là du mélange entre les mots et l'image. Là, c'est un bon exemple de ce que ça peut donner si on pousse le concept le plus loin possible. Quoi.
Très bien. À tester, donc. Vous tapez, j'imagine, Imagen sur Google et vous y arrivez directement. Dans l'actualité aussi, alors ça, c'est tombé il y a quelques heures à peine et forcément, il fallait qu'on en parle. C'est, encore une fois, une actualité liée à Meta. Sheryl Sandberg, qui était aux côtés de Mark Zuckerberg depuis 14 ans, elle est arrivée en 2008. Et c'est elle qui a construit en quelque sorte, et c'est pas elle qui le dit, c'est carrément Mark Zuckerberg, c'est elle qui a construit en fait le Meta qu'on connaît, et Facebook, et qui a trouvé la rentabilité de Facebook. Et bien cette Sheryl Sandberg a décidé de quitter Meta.
C'est la fin d'une ère là, chez Facebook, puisque c'était, alors quand on dit bras droit de, c'est parfois un terme qui est un peu exagéré, mais là pour le coup, c'était réellement le bras droit de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg l'a considéré comme tel, et d'ailleurs, à son départ, elle ne sera pas remplacée, c'est-à-dire qu'elle occupait un poste tellement important en termes d'influence qu'elle pouvait avoir sur Zuckerberg et sur la direction de l'entreprise, que finalement elle est irremplaçable d'une certaine manière. Ça me fait penser un peu à, j'allais dire, le syndrome Eric Schmidt, qui était le patron de Google il y a quelques années, si vous vous souvenez, qui était arrivé chez Google au moment où Google était une start-up grandissante. C'était plus qu'une start-up, c'était déjà une grande entreprise, mais c'était, on va dire, l'adulte dans la cour de récré, d'une certaine manière. Sheryl Sandberg, elle a un petit peu joué ce rôle-là. Quand elle est arrivée, Facebook était adolescent, on va le dire avait besoin de grandir, avait besoin de devenir sérieux sur le plan financier, auprès des investisseurs, auprès du public. Sheryl Sandberg a joué ce rôle-là. Alors, on pourrait dire, pas complètement, parce que là, on a assez longuement parlé des déboires de Facebook auprès du grand public, de sa réputation. Donc,
elle est responsable des réussites, mais aussi des échecs.
Exactement.
De Meta,
exactement. Mais en tout cas,
qui sont les conséquences des réussites. En fait,
c'est ça. Et en tout cas, elle a aidé Facebook à grandir. Voilà, c'est ce que je veux dire, clairement.
Je dis que le terme de bras droit n'est pas usurpé du tout. Moi, j'irais même presque jusqu'à dire que Zuckerberg était presque le bras droit de Sheryl Sandberg. Si on regarde vraiment l'activité économique de Facebook, c'est elle qui a inventé la pub sur Facebook. Et quelque part, c'est elle qui a inventé la pub telle qu'on la connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a transformé effectivement de Facebook un réseau social en une entreprise mondiale, une des plus grosses boîtes au monde. Il y a évidemment les rachats, mais ce qu'a fait Sheryl Sandberg, c'est toute la monétisation de Facebook. Donc tout ce que fait Facebook aujourd'hui, c'est grâce à chez Helsenberg. Et on voit bien d'ailleurs la stratégie qui est aujourd'hui de laisser, alors maintenant c'est Nick Clegg qui a remplacé chez Helsenberg dans la communication, qui est l'ancien vice-premier ministre britannique qui maintenant s'occupe des affaires publiques chez Facebook, c'est lui le communicant. Mais en gros, tout ce qui est sérieux, financier et tout ce qui est, on va dire, juridique, régulation, c'était chez Helsenberg, c'est-à-dire tout le cash et enfin les enjeux financiers, ce qui est quand même le nerf de la guerre. Et tout ce qui est un peu geek, c'est Zuckerberg, c'est-à-dire le type qui va aller faire du surf, le type qui va aller présenter ses casques de réalité virtuelle, le type qui va se faire en avatar dans son métavers.
L'ado, quoi.
C'est l'ado. Zuckerberg, c'est l'ado. Et finalement,
l'ado qui est, voilà, l'ado qu'on respecte, parce que voilà, c'est lui le créateur de
l'ado
social.
L'ado qui est quand même venu devant le congrès costume. Bah oui. Voilà, là-dessus, c'est lui qui a assuré.
C'était mais lunaire, quand même, d'ailleurs, ce truc-là.
Oui, mais en gros, c'est elle qui est responsable de tout le développement stratosphérique de Facebook. Et donc, c'est vrai que c'est elle, in fine, qui est aussi responsable des déboires de Facebook, parce que les déboires de Facebook, c'est essentiellement des déboires liés à la modération. Or, pourquoi la modération est difficile ? Parce qu'il faut créer des outils de modération qui s'appliquent à des milliards d'utilisateurs. Et donc, finalement, les déboires viennent des succès de Sheryl Sandberg. Et je pense qu'elle s'en va... Alors, je sais... Pourquoi elle s'en va, ça, c'est très difficile à dire.
Il faut préciser qu'elle n'a pas été virée. Hein.
Elle n'a pas été virée,
a priori.
En plus, vu les messages, je pense qu'il n'y a pas de problème entre Sheryl Sandberg et Mark Zuckerberg. Mais c'est clair qu'elle s'en va finalement sur un bilan assez contrasté. Mais elle-même, de toute façon, je pense que c'est une femme qui est assez incroyable, qui est, je pense, un vrai génie et qui a tenu, je pense, Facebook d'une main de fer. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est Facebook qui perd son vrai dirigeant et c'est les bras droits qui restent.
Alors voilà, hein, c'est une personnalité, elle est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes dans le secteur. Elle a figuré deux fois dans le classement des femmes les plus puissantes du monde en 2011 et 2017. Et elle est milliardaire depuis quelques années puisqu'elle a revendu ses actions en 2014.
Ah bah, je me posais la question si elle avait tout revendu déjà.
C'est sur Wikipédia
2014,
que je suis en train de...
Mal,
je crois qu'elle a 1,6 milliard de dollars.
Ouais, elle a bien pris.
Mais je ne savais pas si c'était la valorisation de ses actions ou quel cas il fallait qu'elle attende pour que ça remonte parce qu'elle a tellement baissé.
Elle n'a pas du tout vendu. De toute façon, elle a dû en garder un peu.
Elle
probablement.
Elle a voulu qu'elle attende.
Là, vaut mieux attendre maintenant.
C'est pas le meilleur moment pour vendre.
Ouais. Petit conseil financier, Cheryl, si tu nous écoutes. Ne vends pas tout de suite.
En tout cas, elle veut se lancer dans la philanthropie.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Voilà. Après, est-ce que ce sera sa seule activité, je ne sais pas. Mais elle
va sûrement être au conseil d'administration de quelque
chose. Elle reste au conseil d'administration de Facebook.
Messieurs, on va revenir dans un instant, puisqu'on atteint notre première partie de ce débrief de l'actu, hein, dans De quoi je me mêle, vous savez, ce club de la presse IT. On revient avec, entre autres, ce résultat important, hein, plus d'1 milliard d'utilisateurs pour Safari, c'est pas anodin. Et puis, bien sûr, toute l'actu de cette semaine, vous restez là. Si vous êtes sur BFM Business, sur 01TV, ne touche à rien, tout suit, mais sur YouTube, voilà, deuxième module qui commence dans un instant, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01TV. BFM Business et 01TV présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, deuxième partie de quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, à la fois sur 01TV, sur BFM Business et sur YouTube et en podcast audio. Vous êtes très nombreux à nous écouter tranquillement, en faisant du sport, dans la voiture, et on vous remercie de votre fidélité. Pour certains, ça fait de nombreuses années que vous nous écoutez, et merci encore. Pour cette deuxième partie de quoi je me mêle, toujours Raphaël Grabli, qui est là, journaliste, vous le savez, à BFM TV, BFM Business, et puis Anthony Morel, qu'on ne présente plus, avec, dans un instant, Safari qui dépasse le milliard d'utilisateurs. On va aussi évoquer le nouveau dictionnaire de la tech selon l'Académie française. Les dernières réflexions d'Elon Musk qui sont, alors un peu what the fuck quand même, mais on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Et puis on évoquera aussi Netflix. Mais avant de rentrer dans l'actu, tiens, petit aparté pour vous dire que nous sommes à l'aube d'un grand changement dans notre média. Vous connaissez sans doute De quoi je me mêle depuis de très nombreuses années. Je faisais le compte il n'y a pas longtemps, De quoi je me mêle existe depuis 20 ans, les amis.
Wow.
C'est un sacré coup de vieux.
Hein, on a fêté l'anniversaire ou pas officiellement?
Pas tout à fait, mais on y travaille.
Ah bon,
on y travaille.
Facebook n'existe n'existait pas.
Facebook n'existait pas, tu te rends compte, Mark Zuckerberg n'était pas né à l'époque.
Et l'iPod faisait ses débuts.
C'est ça. Et donc, on est à l'aube, je le disais, d'une petite révolution, puisque en fait, la chaîne 01 TV que vous suivez peut-être, qui est disponible sur YouTube, sur le site 01net.com, mais aussi sur les box opérateurs, hein, la première chaîne de tech en France qui émet 24 heures sur 24 sur les box, eh bien, la chaîne 01 TV va être rebaptisée, les amis, à l'occasion, en fait, d'une refonte totale de l'actualité tech au sein du groupe Altice Média. Et c'est une information que je vous donne quasi en avant-première. On en avait parlé avec Jérôme dans le podcast chez Jérôme et François. Mais c'est assez intéressant ce qu'on est en train d'élaborer pour vous. C'est une vraie verticale tech au sein du groupe Altice qui va s'appeler Tech & Co. Et on va vous montrer d'ores et déjà eh bien, ce qui va se passer. 01 TV va se transformer en Tech & Co. Et Tech & Co va être la marque tech du groupe, hein, Raphaël, tu y participeras, évidemment aussi forcément Anthony. Et donc dans quelques jours, hein, ce sera l'occasion de Vivatech, on va faire ce switch, ce changement. 01 TV va disparaître pour être remplacé par Tech & Co. Avec à la fois l'émission que j'ai le plaisir de présenter le soir sur BFM Business entre 20h et 22h à la radio, à la télé. Une verticale web qui est déjà en ligne. Vous allez sur, vous tapez Tech & Co sur Google, vous allez retrouver donc cette verticale web avec toute une actualité hébergée sur le site de BFMTV.com.
Et il y aura beaucoup de nouveautés.
Beaucoup de nouveautés
dans les prochaines semaines, les prochains mois.
C'est
on
ça.
Pousse pas trop, mais il y aura beaucoup de nouveautés.
Voilà, et je peux vous dire qu'on a beaucoup d'ambition dans cette verticale tech. Et puis donc la chaîne 01 TV qui se transforme en Tech & Co, qui ne va, alors évidemment le nom va changer. Hein, vous allez voir avec un super habillage qui va être top. De nouveaux logos, etc. Les émissions, vous connaissez, continueront, bien sûr, hein, de quoi je me mêle. Il y aura d'autres nouveautés, etc., etc. Mais je voulais vous annoncer ça parce que ça va arriver dans moins de deux semaines. Et donc voilà. Et puis Anthony et Raphaël, vous serez les acteurs aussi de ce changement.
Donc, plutôt enthousiasmant tout ça.
On est très heureux. Voilà. Et puis bien sûr, on vous écoutera. On essaiera d'être encore au plus près de vos attentes en matière d'actualité tech. L'actualité tech qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien. Hein. Elle est dans la société, elle est à tous les étages, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et on trouvait pertinent d'accélérer là-dedans. Dernière petite chose, évidemment 01net qui ne sera plus évoqué au quotidien ici, il y a une raison derrière tout ça, c'est que le groupe Altice a décidé de se séparer de 01net.com. Le site 01net.com va poursuivre sa vie avec de nouveaux actionnaires. Et voilà, donc vous pourrez bien évidemment consulter aussi 01net.com, mais comme 01 TV reste sous le giron d'Altice Média, on a décidé de le rebaptiser, voilà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, et ce sera dorénavant Tech & Co. Voilà, on est très, très, très enthousiaste et très heureux, et on aura du temps évidemment pour vous expliquer tout ça tranquillement. Mais voilà, vous êtes les premiers à le découvrir ce week-end. L'actualité donc, Safari. On connaît navigateur, hein, Internet. Bon, alors c'est le navigateur d'Apple, hein, qui eh bien vient de communiquer sur un chiffre.
1 milliard.
Voilà.
1 milliard d'utilisateurs. Pas mal.
Le navigateur qui coûtait 1 milliard.
Non, 1 milliard d'utilisateurs. Donc c'est aujourd'hui le deuxième navigateur le plus utilisé au monde. Bon, il y a toujours Google Chrome devant, évidemment.
Loin devant, quoi.
Loin devant, qui a plus de 3 milliards. Ouais. Mais 1 milliard, c'est quand même pas mal. Et c'est loin devant aussi ceux qui le suivent. Et notamment, alors moi, je pensais, mais c'est, tu vois, comme quoi on a des biais, hein, tous. Moi, je pensais que Mozilla était très, très haut. Et en fait, Mozilla est très, très loin derrière, par exemple. Firefox, c'est 200 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ça, dans le monde.
C'est dingue, ça. Alors que Firefox, on se souvient, il y a quelques années, était number one, hein, était même devant Chrome.
Et puis je pense qu'on a tous une sorte d'affection aussi pour Firefox. En tant que geek, on aime bien Firefox.
Ça joue aussi. Non, mais c'est vrai.
Ils sont quand même loin d'être morts. Ils font quand même beaucoup de choses.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'ils sont très loin. Et puis, ceux qui sont très loin aussi, c'est quand même Microsoft.
Ah oui, je ne les ai même pas cités.
Edge, ils sont à 200 millions.
J'allais dire Internet Explorer.
Ah, ils sont comme Firefox, alors ?
Je crois qu'ils sont un tout petit peu devant Firefox. Mais il y a quand même un truc. Enfin, il faut quand même rappeler un truc assez incroyable. C'est qu'on parle Edge d'un navigateur qui est préinstallé sur tous les PC du monde, quand même, qui est loin derrière. Ouais. Safari, qui arrive à 1 milliard, mais qui est aussi préinstallé. Alors, notamment évidemment sur les iPhones, beaucoup plus que sur les Mac.
Oui, c'est ça qui booste en fait ce
chiffre-là. Évidemment les iPhones, c'est pas les Mac, parce qu'en valeur, ça...
Apple a le même problème que Microsoft, en fait, avec son navigateur. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de monde qui installe Chrome sur un Mac.
C'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que, alors, la blague, c'est souvent avec Internet Explorer, ça sert surtout à télécharger Chrome, quoi. mais ce qui est incroyable, c'est que Chrome...
C'est horrible, en fait.
Safari, c'est de moins en moins le cas. Et pourquoi c'est de moins en moins le cas ? Parce qu'Apple joue vachement la carte de la vie privée sur Safari. Ouais. Maintenant, Safari est un navigateur qui est vendu comme étant très protecteur de la vie privée. Donc, en gros, il y a deux écoles. Il y a soit on veut toutes les options, la simplicité, vraiment
le
meilleur navigateur, je trouve, ça reste Chrome.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, le succès est d'autant plus impressionnant que Chrome n'est préinstallé nulle part. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont chercher Chrome.
Ouais.
C'est ça qui est incroyable, c'est que Chrome a 60% à deux tiers des parts de marché. Et alors, dans le monde et en France, on est dans la moyenne, c'est vraiment ça. En étant préinstallé nulle part. Alors, si, il y a les Android, c'est vrai. Mais je veux dire, sur les PC, c'est pas préinstallé. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on va chercher Chrome. Safari, c'est pas mal parce que ça progresse tranquillement. Je trouve, à mon avis, grâce à la stratégie d'Apple et Edge, là, c'est quand même ça reste quand même un flop par rapport à ce qu'était Internet Explorer. Mais on voit bien quand il y a de la concurrence, ça trompe pas, quoi.
Alors, parce qu'on se dit, c'est super, Safari, 1 milliard d'utilisateurs. Mais derrière tout ça, il y a un business monstrueux avec les navigateurs, forcément.
Alors, et l'un des plus gros business, c'est notamment le moteur de recherche.
Et tout à fait.
Et Google paye, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais
100 milliards.
Voilà.
Ouais. Ah oui, c'est monstrueux.
X milliards, ouais. X dizaines de milliards
ou un truc comme ça,
de dollars par an à Apple pour être le moteur de recherche par défaut de Safari.
Qu'on peut changer quand on rentre dans les paramètres, mais personne ne le fait.
Donc, par défaut, si on est le navigateur, le moteur de recherche. Et moi, toute la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va arriver à un Apple Search ? Pour moi, c'est ça la prochaine étape. Apple a fait...
Tu crois à ça ? Moi, j'y crois pas du tout.
Moi, j'ai du mal. Ils ont tellement d'avance. Enfin, tu vois, il y a tellement d'avance.
Non, c'est une question que je me pose. C'est pas que j'y crois. C'est pas un pari de ma part.
D'accord.
Je pense pas qu'ils vont lancer un moteur de recherche, forcément. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Et je pense qu'ils doivent quand même se la poser parce qu'ils ont quand même une base d'utilisateurs. Enfin, je veux dire, demain, ils lancent un moteur de recherche Apple. De fait, ils le mettent par défaut. De fait, ils deviennent l'un des leaders. Enfin, je veux dire, ils concurrencent très sérieusement, Google, je veux dire, c'est pas Quant, quoi, on va pas se mentir.
Non, bien sûr, mais ce serait quand même un investissement qui serait massif pour arriver à un résultat.
T'as réussi à me caler Quant, quand même.
Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Je compare à Quant, parce que évidemment que si Apple fait ça, la promesse d'Apple, ce sera la vie privée. Ça ne peut être que ça. Ça peut être que le moteur de recherche. Ouais. On a le navigateur de la vie privée, on peut avoir le moteur de recherche de la vie privée.
Dit Quant s'appuyait sur Bing, donc Apple pourrait aussi s'appuyer sur Bing, imaginer des alliances complètement folles.
La conséquence, c'est qu'Apple se lancerait très sérieusement sur le marché de la publicité en ligne, de fait. Parce que pour le moment, Apple, le marché de la publicité ciblée, c'est uniquement sur l'App Store, et franchement, c'est pas grand-chose, c'est quelques applis qui arrivent en haut, mais c'est pas un marché monumental. Si Apple devait lancer un moteur de recherche, ça voudrait dire qu'Apple se lance dans la publicité en ligne, c'est un autre marché, et c'est des enjeux sur les données personnelles qui sont un peu contradictoires avec ce qu'ils veulent faire. Mais honnêtement, moi, je me pose quand même la question. J'explique pas, sachant qu'on était quand même un peu, quand ils ont lancé Apple Maps, enfin Apple Plan, en France, le concurrent de Google Maps, on s'est dit... aller concurrencer Google Maps
va y avoir
du boulot ils sont encore derrière, ils sont encore moins bons en vrai. Mais
vous utilisez, enfin moi j'ai un iPhone, j'utilise jamais Plan.
Non, moi non plus, mais
Apple me couche des trucs,
c'est un boulot de 10 ans pour faire ça.
Mais moteur de recherche, je pense que c'est encore plus compliqué parce que vraiment tu pars avec un niveau de retard par rapport à Google qui travaille dessus depuis 20 ans. On sait le cœur de métier,
c'est-à-dire
il faudrait des moyens qui sont absolument considérable.
Honnêtement, je suis plutôt de votre avis, mais je me pose la question.
Ils ont dû se la poser aussi, probablement, ça paraît quand même compliqué. Puis je pense qu'ils ont aussi des enjeux là. Ils ont des enjeux d'investissement. Alors tu me diras, ils ont les moyens d'investir dans plusieurs choses.
S'il y en a un qui peut le faire, c'est Apple.
Ça, c'est vrai. Mais enfin, tu vois, là, je pense qu'en ce moment, ils sont plus sur l'idée réalité augmentée, comment est-ce qu'on peut l'exploiter, peut-être travailler sur la voiture d'une manière ou d'une autre. Tu vois,
ça fait beaucoup de trucs à investir. Apple TV aussi. Apple TV, ça coûte des milliards par an parce qu'il faut produire
un moteur de recherche. Potentiellement, ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. La voiture Apple, j'y crois pas. J'ai jamais cru. Peut-être que je me plante complètement, mais j'ai jamais cru parce qu'Apple fait de l'iPhone avec 40% de marge. qui vend comme des petits pains. Apple, c'est la seule boîte au monde et peut-être dans l'histoire qui fait à la fois de la valeur et du volume. Ça n'existe pas, une boîte qui fait de la valeur et du volume. En général, soit on vend très cher et moins, soit on vend peu cher et beaucoup. Apple vend très cher et beaucoup. Mais une voiture, les marges, c'est plus tellement ça. Donc moi, l'hypothèse d'Apple qui va aller faire des bagnoles, j'ai du mal à y croire parce que c'est un niveau d'emmerdement énorme pour des marges pas forcément folles.
Ouais,
le moteur de recherche, quitte à investir beaucoup, beaucoup d'argent, le moteur de recherche, il peut y avoir un vrai retour sur investissement.
Je serais curieux de savoir combien Tesla marge avec ses véhicules. On n'a pas d'infos là-dessus. Hein.
Honnêtement,
en revanche, alors, c'est sûr que la marge serait moins importante que sur les iPhones, mais sur le chiffre d'affaires, je crois que c'est des analystes financiers qui avaient étudié le fait que si Apple prenait 2% de part de marché sur la voiture, il générerait autant de chiffre d'affaires qu'avec les iPhones aujourd'hui. Je pense que c'est aussi ça qu'on regarde Apple.
Mais Apple, c'est une boîte de...
Il n'y a pas que la marge.
Non, bien sûr, mais bon, la marge, c'est important, fine, mais... c'est ce qui fait la boîte quand même. Et en tout cas, moi, je n'écarterais pas quand même d'un revers de main... l'hypothèse d'un moteur de recherche.
S'ils annoncent leur moteur de recherche à la WWDC,
vous m'offrez une PS5.
Une PS5 tout de suite. Quoi. Non, mais là, franchement, c'est clair. Parce que tu vas aller à la WWDC.
Et oui, je pars dimanche.
Voilà, tu pars donc ce dimanche-là. Ouais. Tu reviens mercredi.
Et donc, je pourrais vous débriefer ça avec grand plaisir et même vous le faire un peu en direct si c'est jouable.
Ouais, c'est cool.
On essaiera de faire un petit truc pour que je vous parle un peu de
l'ambiance.
Et puis premier événement Apple en physique, semi-physique, mais en tout cas nous on y sera, il y aura une partie physique. C'est quand même assez agréable, ça fait plaisir aussi quand même de revivre ce genre d'événement.
Et puis ce campus qui est une œuvre architecturale carrément incroyable. Dans l'actualité, Anthony, tu voulais nous parler en fait de ce nouveau dictionnaire de la tech selon l'Académie française et c'est plutôt rigolo.
Oui, comme toujours. Alors c'est assez régulier, hein. Tous les ans ou tous les deux ans, il y a une liste de recommandations de mots anglais qu'on traduit en français pour éviter les anglicismes. Alors là, ça s'est focalisé sur le vocabulaire du jeu vidéo et de l'e-sport en particulier. L'idée étant, en tout cas c'est l'argument que met en avant le ministère de la Culture, qu'il y a un jargon qui empêche un certain nombre de personnes d'accéder au monde du jeu vidéo. Bon, c'est un argument un peu bizarre. Mais enfin, pourquoi pas. Alors je vous donne quelques exemples de mots. Donc cloud gaming se transforme en jeu vidéo en nuage, par exemple. E-sport, jeux vidéo de compétition, bon ça c'est assez classique. On avait streamer, animateur en direct, bon pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre?
On est un peu animateur en direct. Hein,
on est un peu animateur en direct.
D'ailleurs
aussi.
En fait il y avait des critiques parce qu'au début il y avait une
joueur
en direct et animateur.
Ouais,
joueur en direct c'était réducteur.
C'est joueur animateur en direct.
Voilà, c'est important animateur. Parce que streamer aujourd'hui on disait c'est joueur en direct, c'est faux parce que non, un streamer
absolument.
Aujourd'hui c'est pas qu'un joueur. Et animateur en direct c'est plutôt
joueur animateur en direct.
Ouais, c'est plutôt cohérent, je trouve.
C'est vrai. Oui, non, mais absolument.
Même si personne ne l'utilisera jamais, c'est
plutôt
cohérent.
C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que par rapport à d'autres listes qu'on a eues les années précédentes, celle-ci me semble assez raisonnable.
Je suis en train de la regarder.
Parce que si tu te souviens du mot dièse, par exemple, qui avait beaucoup fait parler à l'époque pour traduire le hashtag, par exemple, on en avait eu quelques-uns comme ça. L'arrosage pour le spam, c'était pas mal aussi. J'ai jamais entendu quelqu'un utiliser ce mot.
Il y a divulgaché.
Divulgaché.
Mais celui-là, il est resté.
Très joli.
Mais divulgaché, il était tellement marrant.
Mais oui,
il est resté dans le langage. On dit divulgaché maintenant en rigolant.
Mais en rigolant.
Mais mine de rien, du coup, on l'a retenu. Ouais, mais du coup, on l'a retenu.
Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que c'est préconisation, c'est très... Moi, je trouve que l'intention est louable. Le fait de défendre la langue française, c'est un très beau combat. Le problème, c'est qu'une langue, ça se bâtit pas comme ça. Et c'est que c'est l'usage, en fait, qui fait qu'un mot reste ou pas. Et que tu vas pas imposer aux gens de dire animateur, joueur, à la place de streamer. Ça n'arrivera pas, de toute façon.
Mais de toute façon, c'est même pas le but. Le but, c'est... En fait, cette publication au journal officiel, c'est destiné d'abord aux documents administratifs ou après en suggestion pour des documents techniques. Donc voilà, c'est des documents que personne ne lira jamais, en gros, pour faire simple. Et qu'évidemment, on continuera à dire streamer et que streamer rentrera dans le... D'ailleurs, à mon avis, c'est peut-être déjà dans le dictionnaire. Enfin, ça dépend des dictionnaires, mais souvent, on les voit rentrer assez rapidement. Et comme tu dis, c'est comme ça que ça se bâtit une langue. Alors, on peut le regretter parce que c'est des anglicismes. Mais bon, à l'inverse...
Alors, tu sais que quand tu regardes au Québec, il y a certains mots. Alors, j'ai regardé, par exemple, infonuagique pour le cloud.
Au Québec,
c'est utilisé, tu vois.
Alors, au Québec, ils rigolent pas parce que j'ai vécu au Québec. Ils rigolent pas du tout. Il me semble que écrire en anglais sans proposer de définition, enfin de traduction française, c'est quasiment du pénal, il me semble, sur des sites, sur des sites web, etc. Moi, j'ai un ami qui est photographe, qui a mis quelques mots en anglais. Il s'est pris un courrier recommandé de je ne sais plus quel organisme de protection de la langue française en lui disant vous devez changer ça tout de suite, sinon on vous poursuit. Le Québec,
ils ont un protectionnisme sur la langue, c'est incroyable.
En fait, c'est l'inverse des Français. Ils protègent le français et ils parlent parfaitement anglais. Voilà, c'est exactement l'inverse du français. Nous, on ne protège pas le français et on parle très mal anglais.
Ce qui se tient, en fait.
Alors, nous, en France, on reçoit les.
Il y a la proximité géographique avec.
Ah oui, ils sont envahis.
Mais en fait, voilà, c'est exactement.
Ils traversent une frontière, ils sont.
C'est la blague. Alors, j'allais dire le running gag. Donc, du coup, on va dire la blague récurrente.
La blague récurrente,
c'est d'aller voir sur Wikipédia les traductions de titres de films.
Ouais, fiction pulpeuse.
Puisque, voilà, ils traduisent. Ils sont obligés légalement de traduire tous les titres de films. Mais honnêtement, ça fait sourire quand on est en France. Mais quand on vit là-bas, en fait, il y a une vraie cohérence.
Mais bien sûr.
Et moi, je trouve que c'est très. Moi, je trouve ça plutôt bien.
Est-ce que vous avez déjà reçu des mails de cet auditeur?
Oui, Daniel Depoli.
Voilà, incroyable. Bah alors, je pense que les gens ne connaissent pas parce que c'est vraiment un truc très journalistico-journalistique. Ouais. Il y a ce monsieur qui. Alors, moi, c'est génial, c'est même une forme de consécration pour les journalistes de recevoir un mail de ce monsieur qui envoie donc un message à chaque fois qu'il entend un anglicisme à la télé ou qu'il lit dans un article. Donc, moi, j'avais reçu un mail, justement, c'était pareil, c'était sur le cloud. J'avais utilisé le mot cloud dans un papier et il m'avait expliqué de manière très circonstanciée, toujours très poli, très bien écrit. Qu'il y avait un mot en français.
Il y a des articles sur lui. Magique.
Il y a des articles sur lui.
Oui, le Figaro F1. Parce que c'est vrai, quand on est journaliste, le premier mail de Daniel Depoli, c'est.
Mais c'est clair.
C'est le baptême du feu. Start-up. Moi, j'ai écrit Start-up. Il m'a dit non, c'est Jeune Pousse. Ouais. Voilà, donc c'est
très marrant.
Ouais. Mais c'est un protecteur de la langue française.
Mais c'est vrai que c'est. Enfin, je trouve que c'est aussi intéressant de voir ça en termes de. J'allais dire de soft power. Donc c'est pareil. C'est des mots qu'il faudrait traduire. Mais ça montre aussi à quel point la France est à la traîne dans le monde de la tech et de l'innovation. Parce que quand tu innoves, quand tu inventes, c'est toi qui imposes tes mots au reste du monde. Oui. Il y a des mots français qui sont restés dans d'utilisation mondiale. Tu vois, l'hélicoptère, c'est une invention française, on dit hélicoptère en anglais. Le parachute, même chose. Le stéthoscope, même chose. Le bidet, même chose. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs comme
frigidaire,
ça.
Frigidaire, non ? En français.
Ouais, frigidaire, non, je pense pas.
C'est la marque,
non,
frigidaire.
C'est la marque, en plus. Mais tu vois, t'as des mots, des inventions qui sont...
Frigidaire.
Si tu dis frigidaire aux États-Unis...
Peut-être qu'ils existent aux US, peut-être qu'ils vendent aux US.
Mais en tout cas, tu vois, quand tu inventes les trucs, tu peux... voilà. Imposer aussi ta vision du monde au reste du monde. Mais tu vois, que ce soit dans la téléphonie mobile, dans le jeu vidéo, même si on a des boîtes qui sont incroyables, enfin, l'innovation, elle vient quand même principalement des États-Unis et de la Chine.
Je vous propose de parler de Netflix maintenant. Alors, Netflix qui...
Streaming, tu veux dire.
C'est ça. Qui vit quand même des moments un peu compliqués. Hein. On le voit avec des résultats qui n'étaient pas forcément exceptionnels. C'est-à-dire que Netflix, depuis toutes ces années, a tellement connu en fait une croissance exponentielle que dès qu'ils ont un petit... Dès qu'ils toussent, en fait, tout le monde les regarde et ils se disent, ça y est, ils vont mourir, quoi, en fait. C'est ça. Hein. Alors que, bon, tout va plutôt quand même encore pas trop mal pour Netflix. Ils investissent des sommes phénoménales dans la production, etc. Mais malgré tout, voilà, on sent que ça a été un petit coup de cravache quand même, hein, chez Netflix, avec pas mal de choses qui seraient en gestation, Anthony.
Oui, c'est ça, justement, pour essayer de renouveler un petit peu le modèle, parce que, tu l'as dit, ils ont perdu des abonnés pour la première fois. Alors, pour une entreprise de croissance, c'est jamais génial, même si c'est un petit nombre, je crois que c'était 200 000 abonnés, c'était ridicule à l'échelle de
220
Netflix.
Millions d'abonnés au total.
Voilà, donc forcément, mais enfin, ça marque quand même un petit coup d'arrêt. Donc, ils disent, comment est-ce qu'on peut renouveler tout ça? Et parmi les idées qui ont été émises, eh bien, le fait de diffuser des programmes en direct. Alors, ils parlent notamment de programmes, alors ça pourrait être des spectacles humoristiques, par exemple, qu'on pourrait regarder, non plus en vidéo à la demande, comme aujourd'hui, mais sous forme de flux, finalement.
Tu te connectes à 20h30 et tu regardes ton programme en direct, comme tout le monde.
Exactement. Et alors, ce qui me fait marrer, c'est que, par ailleurs, ils ont aussi annoncé qu'ils travaillaient sur le fait de proposer de la publicité. C'est-à-dire qu'il y aurait des abonnements qui seraient moins chers, mais qui seraient adossés à de la publicité. Et là, je me suis dit, attends, des programmes de flux, la publicité, les mecs, ils sont en train d'inventer la télé, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, Netflix a été créé un peu en partie, et c'était leur argument commercial, pour s'évader de la télé, tu vois, pour dire, je vais regarder ma série quand j'en ai envie, et puis j'aurai pas la pub, je serai pas embêté toutes les 10 minutes.
En se moquant même un peu de ce vieux média qu'est la télé.
Exactement,
en fait.
Voilà, c'était le média mourant, et puis là, ils disaient, finalement, on va faire du flux, puis on va ajouter un peu de publicité, on va voir ce que ça donne.
Voilà, c'est ça.
C'est quand même assez marrant. Voilà, c'est un retournement, une petite ironie de l'histoire, on va dire.
C'est-à-dire que là, ça fait maintenant.
Ils vont chez Michel Drucker. Hein.
Oui. C'est vrai. Le Foudoum. Non, mais c'est-à-dire que là, ça fait 15 ans qu'ils prennent des abonnés à tour de bras partout, très facilement. Et puis là, en fait, le problème, c'est pas tant de perdre 200 000 abonnés, parce que c'est rien du tout par rapport au nombre global d'abonnés. Le problème, c'est que ça montre que ça a tapé un peu le plafond. Et c'est là, en fait, le problème, c'est que c'est la fin de la croissance facile.
Oui, qu'est-ce qui va se passer après ?
Et donc maintenant, on prenait les abonnés à tour de bras, maintenant, il faut aller les chercher, à la main, un par un, entre guillemets. D'où des abonnements qui n'existaient pas avant, d'où des abonnements moins chers avec la pub. C'est-à-dire qu'avant, Netflix ne voulait pas de pub, et bah, ceux qui ne voulaient pas payer 8 euros par mois, on faisait une croix dessus. Maintenant, on se disait, ah bah, il faut peut-être aller chercher aussi, parce que là, quand même, il faut continuer notre croissance. Et donc, ils sont obligés d'aller dans ce sens-là. Par contre, moi, sur les flux en direct, bah oui, mais en même temps, c'est aussi là où se trouve la croissance. Moi, je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'une boîte comme Netflix qui investit 20 milliards n'ait pas plus de budget. Alors, il y a le stand-up, il y a les spectacles, il y a les concerts quand même. Moi, je trouve que les concerts, on le voit par exemple en France, ce que fait Arte avec des concerts sur Arte, c'est absolument génial au niveau du contenu. Je pense que Netflix pourrait
très bien
faire plus.
Ouais, mais encore un concert, je me dis, bon, tu peux le regarder en replay, quoi.
Oui, bien sûr. Non, mais bon, autant, le stand-up
après,
aussi.
Après, il y a l'info et le sport.
Et, voilà, et alors, moi, c'est la grosse question. Alors, le sport, ça coûte très, très, très cher. Ouais, c'est rarement rentable.
Mais on est d'accord que ça...
La question leur a été posée. Hein. Alors, je ne sais plus, c'est pas le patron, c'est Paris Hastings, mais je ne sais pas, c'est le directeur des opérations, a répondu... On se l'interdit pas, mais ça semble compliqué.
Il a fait une team Koukri, quoi.
Ouais, voilà, ouais. C'est un peu ça. Mais le sport, c'est, je veux dire, quand on voit les, enfin, quand on parle du sport, ça dépend des sports, mais quand on parle du sport, on pense quoi ? On pense la Champions League, enfin le foot, éventuellement Roland Garros, ce que fait Amazon. Mais le sport.
Bon, après,
vraiment...
aux US, c'est le foot américain, c'est le handball.
Oui, mais le sport en Europe, par
baseball.
Exemple,
le handball, ils s'en foutent un peu.
Oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi.
Mais voilà.
Je veux dire le basket en plus.
C'est des montants à investir qui sont colossaux. Moi, la question que je me pose, c'est sur l'info. Alors, pas forcément de l'info comme BFM TV, par exemple, mais de l'info un peu plus documentaire, c'est-à-dire, ils en font déjà pas mal, mais là, c'est plus des documentaires sur des faits divers, sur des fictions.
Parce que le direct, en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à informer en temps réel, à divertir en temps réel avec du sport, et l'interactivité. Ouais. Voilà, c'est les trois trucs qui apportent, en fait, où le direct apporte quelque chose qui a une énorme valeur par rapport au replay, on est d'accord ?
Bien sûr.
Donc,
bien sûr.
Voilà, c'est ça, ça va être intéressant de voir si Netflix, tout comme Amazon d'ailleurs, parce qu'Amazon s'intéresse à ça, et fait plus que s'intéresser, puisqu'on le voit, ils ont investi beaucoup d'argent dans la Ligue 1. En ce moment, on est en plein Roland-Garros. Il y a des matchs des matchs très intéressants et très importants qui sont diffusés sur Amazon. Ça fait d'ailleurs toute une pagaille parce que le Nadal-Djokovic a été diffusé. Enfin, il se terminait à 1h30. Moi, je m'endormais devant mon iPad.
Là, on est dans le ridicule. On est dans l'extrême. Je veux dire, un match qui termine, surtout le match le plus important de la quinzaine qui débute. Je veux dire, débuter un match sur terre battue
à 21h.
En potentiellement 5-7 à 21h, c'est suicidaire.
C'est suicidaire.
C'est totalement, ça n'a aucun
sens. Ouais, mais ça prouve
sens.
La puissance financière d'Amazon qui a réussi à imposer ça à la Fédération française de tennis.
C'est l'argent qui va, in fine, faire que les gens ne peuvent plus voir
mais
le
parce
match
parce que je pense
dorment.
Que ça se fait ailleurs.
Donc, on est dans le ridicule.
Il faudrait peut-être se renseigner, mais je pense pas que Roland Garros soit le premier tournoi à faire les Night Sessions. Ça doit exister aussi dans d'autres
pays. Oui, mais il y a la spécificité de Roland Garros où c'est des matchs très longs. Parce que sur terre battue, les matchs sont beaucoup plus longs. Je veux dire, Wimbledon, c'est aussi en 3-7 gagnants, mais en général, les matchs sont plutôt plus courts. Donc, c'est quand même assez particulier. C'est vrai que là, on est un peu dans l'extrême, je trouve. Et puis après, on parlait du direct. Mais je trouve qu'il y a quand même sur les séries classiques, on va dire, il y a une envie aussi des gens de parler des séries. C'est le fait de se retrouver à la machine à café et parler d'une série. Et finalement, on voit par exemple en ce moment Obi-Wan. Quand Disney sort un épisode d'Obi-Wan, en fait, ce n'est pas une diffusion en direct, mais c'est presque une diffusion en direct, parce qu'en vrai, ils sortent le mercredi. On sait que tout le monde va le regarder, en gros, le soir. Tout le monde va débriefer. Et donc, c'est presque un prime. C'est un faux prime, en fait.
C'est exactement comme Game of Thrones sur Orange à l'époque.
Exactement.
Et c'est vrai que ça sortait
le dimanche soir.
Ouais,
alors, en théorie...
Ouais, mais on est d'accord que c'est rare. Hein. C'est vraiment des séries emblématiques.
Franchement, il y a des séries. Ouais, mais tu as au moins une ou deux séries par an sur Netflix.
Oui,
tu vois, Stranger Things, ça peut...
Exactement. Oui, mais une ou deux fois par an, c'est anecdotique.
C'est parce qu'ils font jamais ça qui crée moins l'événement aussi.
Ouais.
Je veux dire, il faut arriver à créer l'événement.
Squid Game, il y a un suspense incroyable. Ils l'auraient fait, tu vois, plutôt que je crois que c'était 6 épisodes, ils auraient fait ça. Et chaque épisode, à un moment donné, tout le monde peut le voir en même temps.
Mais si je puis me permettre,
plus énorme.
Le problème de Squid Game, c'est qu'ils n'ont pas vu venir le succès de Squid Game.
Oui, aussi.
Il y a ça aussi.
Non, mais c'est vrai.
Enfin, Squid Game, c'était un pouillème, enfin c'était une série parmi des milliers d'autres que Netflix allait balancer, et puis paf, d'un coup ça a été c'est monté en épingle
sur les grosses franchises,
Je sais pas, moi je suis fan de Star Wars, je vois Obi-Wan, je sais pas, je le regarde, j'ai envie d'en parler
à des potes, j'ai envie d'en parler
aux autres, et c'est vrai que si on se dit bah tu sors tout, tu sors 20 épisodes, parce qu'en plus en général là pour le coup il y a les mini-séries,
c'est en quelque sorte sacraliser un moment et lui donner encore plus d'importance. Bien en fait,
sûr. Créer des grands messes. Mais voilà. comme
tu disais tout à l'heure, avec une raison par drone, on fait de moins en moins de trucs, on est de moins en moins dépendant. Là, le direct nous oblige à être dépendant de quelque chose. C'est-à-dire, voilà, attendre 20h40 ou 20h50.
Ouais, mais c'est une dépendance dont tu as envie. Moi,
c'est une communion.
D'accord.
Et on en a besoin. Je dis pas qu'il faut tout faire comme ça, mais parfois on en a besoin.
Et si tu as raté le truc, tu as l'impression de passer à côté de.
C'est dingue, j'ai l'impression de réinventer la télé.
Mais c'est ça,
on réinvente la télé, les amis.
Enfin, ça reste important, la télé. Ça reste le média de communion.
Et on est dans un groupe, d'ailleurs, qui croit beaucoup au broadcast, puisque c'est la définition du broadcast. Et bien voilà, cette deuxième partie de Quoi je me mêle est terminée. Merci de nous avoir suivis et merci à Raphaël Grabi. Bon voyage à Palo Alto.
Et on se débriefe ça rapidement.
Et bien voilà, tu vas nous raconter tout ça avec cette WWDC. Et puis fidèle au poste, bien sûr, Anthony, qu'on écoute et on regarde le matin, et qu'on écoute et on regarde aussi entre midi et deux sur RMC. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.